Bien le bonjour, bon matin à tout le monde. Bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. Nous sommes déjà rendus, et oui, à l'édition du vendredi 18 janvier 2019. C'est Hélène Bédard qui vous parle, et avec moi à la régie, j'ai ici. Bon matin, Mathieu.
Bonjour, Hélène.
Et malgré cette froidure, nous allons essayer de vous entretenir. Peut-être pas de sujets chauds de l'heure, parce que... Il y en a beaucoup trop, mais je vais essayer de vous divertir par mes nombreux sujets, par mes choix. Je vais vous entretenir de plusieurs choses, notamment de volonté. Et je vais vous dire aussi comment faire danser votre cerveau. Et plusieurs autres sujets qui touchent évidemment la catégorie de seniors que j'affectionne particulièrement. Je vous reviens dans un petit moment. Alors voilà, donc ce matin, je vais donc vous commencer par vous jaser de volonté. Eh oui, de la volonté et comment la développer. C'est un texte que j'ai trouvé dans une rubrique de la compagnie d'assurance SSQ. Ils sont assez originaux dans leur sujet, alors je ne peux pas m'empêcher de puiser les meilleurs sujets. Alors voici, ça commence comme suit. Si vous décidez de... Puis, en fait, on parle de ça en janvier, et c'est le moment de toutes les promesses, les vœux, toutes les annonces de « je vais faire ci, je vais pas faire ça », alors nous y sommes. Alors comme ça s'est fumé, retourner à l'entraînement, se dépasser au travail, manger mieux. Voici plein de choses à faire ou à ne pas faire. En fait, c'est décider librement d'accomplir ou non certains actes dans notre quotidien. Par exemple, lutter contre la procrastination. Pourquoi faire aujourd'hui ce que je pourrais faire demain, n'est-ce pas? Combien de fois on peut agir de la sorte? On essaie aussi des fois de se débarrasser de certaines mauvaises habitudes. On essaie parfois aussi d'atteindre des objectifs et, ce qu'il y a de plus beau et de plus important, réaliser ses rêves. Vous faites preuve de volonté au quotidien bien plus souvent que vous ne le croyez. Et oui, vous renoncez quelquefois à des désirs ou à des plaisirs immédiats. Vous démontrez un réel contrôle et choisissez plutôt une gratification à plus long terme. À l'épicerie, par exemple, vous passez tout droit devant les étalages de croustilles et de chocolat. Difficile, ça. Mais vous préférez la satisfaction du maintien de votre bonne santé et avoir la fierté d'une saine alimentation. En voiture, lorsque vous luttez contre l'envie d'excéder la vitesse permise, c'est parce que vous évitez d'avoir à payer une contravention salée quelquefois. Alors, comme on dit, quand on veut, on peut. Et si vous vouliez encore un peu plus? Ici, il y a une question. Est-ce que la volonté est un muscle? Plusieurs études abordent la volonté comme si elle en était un et qu'elle pourrait s'améliorer avec l'entraînement. Sans être un muscle, je crois que oui, à l'entraîner, on peut le développer. Le secret résiderait dans la répétition d'une chose. Plus on s'exerce à avoir de la volonté, alors plus elle devient naturelle. Pour la développer, il faut user de patience, mais les résultats, fiez-vous sur moi, seront au rendez-vous. Pour résister à vos envies, vous devez d'abord les connaître et en être conscient. Donc, il faut apprendre à faire la différence entre ce qui est un besoin et ce qui est un désir. Dressez donc la liste des habitudes, des comportements que vous voudriez contrôler ou de développer. Et décidez ce à quoi vous vous attaquerez en premier. Essayez pas de tout changer d'un coup ou de tout réaliser simultanément. Prenez du temps, agissez de façon graduelle. Vous voulez apprendre à dire non et que ça, c'est pas facile. La première fois, ça va vraiment être difficile. Mais attention, attention, ne devenez pas tout le contraire de ce que vous étiez. Jugez les circonstances. Vous êtes accro à la techno? Commencez par vous déconnecter pour une seule journée, par exemple en vacances. Partez en expédition et oubliez donc votre téléphone. Vous survivrez, ça c'est sûr, n'ayez crainte. Et ce sera plus facile la prochaine fois de l'oublier à nouveau. Tout ça amène un changement d'attitude, ça facilite la transition entre aujourd'hui et le demain souhaité. Alors, vous pouvez faire des choix beaucoup plus judicieux, porteurs pour vous d'un avenir meilleur. Il s'agit simplement de s'entraîner. C'était un article, comme je vous le disais, paru en septembre 2018 dans SSQ, et c'était « Comment développer sa volonté ».
De promesses, une chanson de Laurence Ely.
Merci beaucoup, Mathieu. Alors voilà, cette fois-ci, je voudrais vous... Tantôt, j'ai parlé de volonté, et cette fois-ci, je voudrais vous parler de comment faire danser votre cerveau. Et voilà, c'est Lucie Vincent, qui est une neurobiologiste, qui vous dit ceci. Par contre, c'est un texte qui a été rapporté dans le journal Le Devoir en décembre 2018. Alors, ce que Lucie Vincent nous rapporte, c'est ceci. Elle nous dit que danser apporte une amélioration de l'estime de soi, de la confiance et de l'humeur en général. Elle pourrait aussi entraîner des améliorations en soins et en éducation. Ben, voyons voir ce qu'elle a à nous dire un peu plus précisément. On s'est rendu compte que les mouvements complexes en particulier, celui qui exige de la coordination, a des effets très importants sur le cerveau. Elle précise, Chaque contraction musculaire, même minime, a un impact sur notre corps. Mieux, rien ne vaut une activité musculaire modérée, mais régulière, qui fait travailler tout le corps sans à-coups et sans stress. Dans un avenir proche, on prescrira bien tel ou tel entraînement de mouvement faisant travailler tel ou tel muscle pour stimuler, par exemple, le foie, les reins ou notre système digestif et surtout notre cerveau. À la manière de la réflexologie plantaire chinoise. Les danseurs le savent d'expérience. Pour eux, les bienfaits s'additionnent. Quand on est obligé de bouger de toutes les façons possibles, on développe notre cerveau. Et bouger son corps, ben, ça rend plus intelligent. Eh bien, dansez donc un peu maintenant. De nouveaux faits qui pourraient entraîner des changements très physiques sur les manières d'enseigner, d'apprendre, de guérir et d'analyser. On dit toujours qu'il y a 20 ans, entre ce qui se passe dans les laboratoires et les prémices, des changements de société. Je crois que j'adhère à cette idée. Il y a toujours beaucoup de temps entre ce qui se fait en labo et ce qui va finir par être accepté socialement. Même si on fait un mouvement très abstrait pour représenter une chose, un concept, on se souvient beaucoup mieux des éléments appris si on les a appris en bougeant. Je m'en sers personnellement pour la mémorisation et je continue la danse. Je me suis rendu compte que les sensations corporelles qu'on y acquiert nous rendent beaucoup plus conscients de notre corps. Y a-t-il d'autres activités tout aussi riches de conséquences? Il paraît que les arts martiaux ont beaucoup de points communs avec la danse. Sinon, il y a aussi un autre rapport avec la musique. Mais le fameux rapport à la musique, absent en général des arts martiaux, c'est pas anodin. Le fait de bouger en rythme sur la musique, en particulier en synchronie avec d'autres, libère des endorphines. Et tout le monde commence à savoir que les endorphines, ça fait du bien, on se sent bien. Ici, quelque chose d'intéressant. Quelqu'un qui souffre de la maladie de Parkinson et qui arrive au stade où il ne peut plus déclencher un mouvement, par exemple un pas de marche, mais si on lui met une musique bien rythmée, son cerveau se branche sur ce rythme et le recrée sur celui de la marche, ce qui lui permet d'entamer de nouveau le mouvement. Ça, c'est fantastique. Madame Vincent poursuit. Je remarque que c'est un retour au savoir instinctif. Il y a beaucoup de sociétés qui utilisent la danse pour des rites de passage, pour un apprentissage, pour une guérison. Et elle conclut en disant, on fait un grand cercle, quoi. Nous y revenons donc à la danse et le cercle de cette danse. Alors, faites danser votre cerveau. C'est un texte de Catherine Lalonde, paru dans Le Devoir en décembre 2018. Mais ce texte, c'est le livre que cette auteure a écrit. Et l'auteur, c'est Lucie Vincent, neurobiologiste.
Sur terre, mais chacun vit sa vie en solitaire. Chacun dans ses habitudes, chacun avec ses certitudes. Et l'amour est la pire des solitudes. Quand l'univers m'indiffère, quand j'ai plus envie de rien faire, quand la vie m'endort comme un somnifère. J'ai inventé la formule qui vaut mieux que toutes les pilules, même si ça me donne l'air d'une somnambule.
Danse dans ma tête. Ah ah ah. Danse dans ma tête. Ah ah ah. Danse dans ma tête. Ah ah ah. Danse dans ma tête. Dans ma tête. Sois debout dans le métro, que je sois assis à mon bureau, tous les jours les mêmes mots, les mêmes gestes de rôle.
On a encore un doute sur le nom de cette chanson. Je danse dans ma tête. C'était Orange Orange.
Pas de doute possible. Mais Mathieu, comme vous avez de l'à-propos par rapport au texte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À ce moment-ci de l'émission, je vais vous parler de quelque chose, une belle réflexion que j'ai trouvée dans la revue Actualité. Et ça s'intitule comme suit. Et si la meilleure façon de retenir les familles à Montréal, c'était de penser aux aînés? Pas bête, ça, comme réflexion. Et ça s'intitule « Les grands-parents d'abord ». Voyons voir. Il y a l'Institut des générations qui a... c'est un groupe de réflexion sur l'équité intergénérationnelle qui s'est réuni. Et les gens qui forment cet institut, ce sont principalement des trentenaires, en fait. Mais ils se réunissent pour réfléchir, par exemple, à l'avenir de la ville, à l'avenir de les idées qui concernent essentiellement les jeunes. Mais, ils n'ont pas oublié, dans leur rapport, par exemple, pour un Montréal plus équitable, ils ont laissé une grande, grande place aux aînés. On aurait tout avantage, disent-ils, à écouter le pouvoir gris. Alors, l'actualité s'est entretenue avec l'un des auteurs du document, Samuel Labrecque, 31 ans, qui a été sensibilisé aux enjeux du vieillissement alors qu'il était l'attaché politique de l'ancien ministre de la Santé, Régent Hébert. Montréal néglige essentiellement les personnes qui ont des conditions socio-économiquement difficiles. Or, ces gens sont souvent des aînés. Alors, il conclut que souvent les aînés vont faire un exode vers les banlieues. Comme les familles, ils partent donc vers la couronne nord, la couronne sud, et c'est là pourquoi ils font ça, c'est là que les services se développent et le logement y est un peu plus abordable. Par exemple, juste un exemple tout simple, à Laval, le transport en commun y est gratuit pour les 65 ans et plus. Ben, c'est pas rien, ça. Les gens le considèrent. D'ailleurs, en urbanisme, on dit souvent que ce qui est bon pour une maman avec une poussette sera aussi bon avec un aîné qui a une marchette. Mais c'est pas bête, tout ça, là. C'est des réflexions intéressantes. Mais le danger qui guette les aînés qui quittent la métropole pour s'en aller en région ou en banlieue, c'est évidemment le risque de perte d'autonomie et d'isolement. Et ça, il faut le considérer. Il faut rappeler que les aînés font aussi partie de ce qu'on appelle la famille. Donc, quand on veut retenir les familles à Montréal, ils en font partie. Les aînés font souvent du bénévolat, paient des taxes, ils ont des choses à dire, ils génèrent une grande richesse sociale et économique. En vivant dans le même milieu, tout le monde y gagne, mais oui. Les aînés peuvent s'occuper des petits-enfants. La vie des proches aidants peut en être aussi facilitée. Mais actuellement, on assiste à une ghettoisation des personnes âgées. Elles vont dans des résidences chromées, avec plein de services, ou dans des CHSLD, et elles n'en sortent plus. Il y a des personnes âgées qui veulent rester dans leur milieu, mais qui ont besoin d'aide. Et des jeunes qui commencent dans la vie et qui cherchent des logements abordables. Pourquoi on ne les réunirait pas? Ça se fait en France depuis quelques années, puis les résultats sont très bons. L'automne dernier, d'ailleurs, je vous avais parlé à Trois-Rivières, une résidence pour personnes âgées qui offrait gratuitement une chambre et des repas à deux étudiants en échange de bénévolat. C'est une approche très intéressante et ça fonctionne toujours. Certaines viennent directement d'eux, mais oui, c'est le cas de la proposition, quand je dis deux, c'est les personnes âgées. Il y a une proposition qui vient d'eux, justement, d'instaurer un conseil des aînés qui permettrait aux personnes âgées de participer davantage à la vie citoyenne et d'être entendues au niveau municipal. Il s'agit d'une revendication de très longue date de plusieurs organismes de défense des droits des aînés. On pense parfois que les vieux sont mieux représentés que les jeunes parce que les politiciens sont dans la cinquantaine, mais quand on parle d'aînés, c'est généralement les gens de 70 ans et plus. Et ceux-là, ils sont rarement élus. Il faut donc que le pouvoir gris puisse se faire entendre un peu plus. Le vieillissement de la population, c'est partout au Québec. Si nous assurons une qualité de vie à nos aînés, en fin de compte, pensez-y, nous nous assurerons un meilleur avenir à nous tous, les trentenaires qui y songeons actuellement. C'était donc un texte paru dans l'actualité en mai dernier, et ça concernait les grands-parents d'abord, comment... Une façon de retenir les familles à Montréal, c'est bien de penser et de passer par les aînés.
tant de choses qui m'échappent, tant de toi que je ne connais pas. Fais-moi une place sous ton écharpe, je t'en prie, raconte-moi. T'es toujours la jeune fille qui s'amuse avec le temps, ne s'éteint pas l'enfance qui brille dans les yeux d'une grand-maman. Tu berces encore les enfants, tu les berces même s'ils ont du grain, tu fais d'une larme un printemps. T'es là, le sourire béat, c'est beau. Si la peau pouvait suivre, tu te ramènerais un beau gars. T'es toujours la femme qui profite à fond du temps. Elle ne s'éteint pas la flamme dans le cœur d'une grand-maman. Tu perces encore les enfants, tu les berces même s'ils sont du grain, tu fais d'une larme un printemps. T'es là, le sourire béat, c'est beau, oh, oh, comme la vie te va. Dis-moi comment tu fais toi pour aimer toujours aussi fort, malgré ce qui file entre les doigts que l'on voudrait tenir encore. Et la réponse que tu me donnes n'a rien à voir avec le temps, c'est un air qui se
s'appelle Amélie et elle chantait Grand-maman.
Ah, quelle douceur, quelle belle parole. Merci encore une fois. Je vais vous parler c'est un fait cocasse, mais enfin c'est plutôt... Monsieur devrait rentrer dans les statistiques assez spéciales. J'ai trouvé quelque chose dans le Nouvelliste de Trois-Rivières. Écoutez, cette personne-là, ça fait 70 ans qu'elle conduit sans accident. Non, mais c'est quelque chose. Je ne peux pas m'empêcher de vous en parler. Le monsieur, il n'y a pas de problème pour dire son nom, il s'appelle Denis Michaud. Ben, il se raconte un peu. Vous allez me demander, c'est sûr, 70 ans sans accident, il y a quel âge? Ben oui, il y a 88 ans. Alors, il a commencé à conduire à l'âge de 16 ans. Puis son premier, c'est drôle, son premier véhicule, c'était un corbillard avec son père. Et il a fait beaucoup de routes et il s'est amusé à apprendre à conduire. À 18 ans, il vient vivre à Montréal. Ben là, c'est sûr que ça bouge plus vite. Il y a des camions, des autos, des tramways, mais peu importe, il conduit toujours. Après ça, il est directeur de funérailles à Saint-Hyacinthe. C'est un monsieur qui a fait beaucoup de routes, beaucoup, beaucoup de routes. Puis là, tout à coup, il a pensé que un jour, il arrêterait, il prendrait sa retraite parce qu'en plus, les hivers, il s'en allait aller-retour en Floride. Non, là, il avait sa voiture avec son épouse. Alors, il dit qu'il a passé plus de temps sur la route au cours des années que travailler dans un bureau à compléter un dossier. Mais malgré tout, il a pensé qu'au bout de 10 ans, il dit de faire aller-retour au Floride, il prendrait sa retraite. Ben non, il continue. Maintenant, il est chauffeur privé pour ses petits-enfants. C'est pas charmant, il est grand-papa, évidemment. Alors, il amène ses petits-enfants à discothèque, walker, voir les amis, et ils en passent. Il a eu droit en cadeau comme Noël passé, une plaque d'auto sur laquelle était inscrit « Grand-papa taxi ». Je trouve ça charmant. Il dit « Dans l'année passée, il a fait 1300 déplacements. C'est quand même pas mal pour quelqu'un qui est à la retraite. Tout ça pour ses tout-petits. » Alors écoutez, comme il dit toujours, il dit « On conduit pas pour nous, mais on conduit pour les autres et il faut beaucoup de respect dans la conduite automobile. » Ne nous quittez pas. J'ai fini ce texte, mais ne nous quittez pas. Nous revenons après la pause, puis je vous parlerai de... Est-ce qu'on garde trop de choses? Voilà, alors je vous ai promis avant la petite pause de vous parler d'une réflexion en fait. Est-ce qu'on garde trop de choses? Et j'ai moi-même fait cette réflexion. J'avais lu quelque chose à l'automne à ce sujet, mais cette fois-ci, c'est un peu plus pointu. C'est Yves Boisvert de La Presse qui se questionne. C'est un texte qu'il a publié en décembre dernier. Alors voici la chose. Son oncle est mort. Il fallait vider le minuscule appartement. Une pièce et quart, disons. Le lit prenait la moitié de l'espace. Il y avait un semblant de cuisine, un demi-balcon où s'asseoir de profil et un placard. En 3 ans, il était passé d'une maison à un 2,5, puis à ce studio, dans une de ces immenses tours pour retraités. C'est pas croyable ce qui peut entrer dans presque rien d'espace où vit un homme seul. Il était allé porter dans des casiers du sous-sol tout ce qui serait récupérable pour la charité et jeter le reste, trophées de golf, plaques commémoratives avec des noms que personne ne connaît plus, des vases craqués, des porte-clés, des spatules en plastique jauni. Quand tu hésites, tu laisses ça de côté pour la charité. Eux, la charité, décideront. Au fil des déménagements, les gens se délestent peu à peu de leurs possessions. Peut-être qu'on a un besoin de garder un trop-plein. Trop laisser aller, ce serait peut-être démissionner. C'est des témoins d'une vie, des preuves de notre existence. On ne veut pas être à découvert. Mais ça prend une zone de débordement au cas où. Au cas où de quoi? Peut-être que les enfants en auront besoin, tu sais jamais. Qui peut te demander un humidificateur un samedi de février? Je ne parle pas évidemment ici des autres accumulateurs. Non. Je parle juste des gens comme vous et moi. Pas des collectionneurs, pas des fétichistes, pas les gens bizarres. Toutes ces choses qu'on garde pour rien, ou plus exactement pour une raison qui nous échappe. Ces objets qui se sédimentent. Je ne fais pas de plaidoyer pour la simplicité volontaire. Je ne vous parle même pas d'environnement. Non, je parle seulement d'un effet psychologique sournois sur cette accumulation innocente. Chose certaine, ces machins, ces patentes n'encombrent pas seulement nos tiroirs, nos étagères et nos placards. Ils prennent une place dans notre tête. Ici, il y a une sorte de défi, de minimalist game qui est de plus en plus en vogue. Ça dure 30 jours. Le premier jour, tu te débarrasses d'un truc. N'importe quoi. Petit, moyen, gros. Bon, personnellement, pas un livre, disons. OK. Même un livre. Deuxième jour, 2 objets. Vous me voyez venir. Hein? Troisième jour, 3 objets. Et au bout de 30 jours, le dernier jour, 30 objets. Je me mets au défi de le faire. Et avec tous les dérapages matériels que Noël nous a confrontés, ça se peut que ça soit difficile, mais ça comporte un réel défi, ça comporte un réel travail. C'est un double défi. Le premier étant évidemment de ne pas laisser entrer trop de nouveautés sous prétexte de combler les espaces vacants, parce que quand on va trouver les espaces vacants, on va tenter de mettre quelque chose à la place. Je vous reparle plus tard de tout cela, le défi, si j'étais capable de le tenir. Je vous le dis, je l'ai vu dans ces casiers, au sous-sol de mon oncle. Il y avait vraiment beaucoup trop de choses. C'était donc un texte de Yves Boisvert, paru en décembre dernier. dans la presse.
Elle est de la race des femelles. Elle est du cercle. Non. Comme la lune, elle resplendit, sugar, même le jour, mon soleil. Comment Dieu a-t-il pu créer une eau si jolie que tu? Je la lèche, je suis le roi des abeilles. Bien sûr, c'est une sorcière bleue, une acrobate, un médium. Comment Dieu a-t-il pu créer une eau si jolie créature? Comment Dieu a-t-il pu?
C'était très loin de la chanson que j'avais prévue. Mais c'était Arthur H et la chanson « Ma sorcière bleue
». Merci Mathieu.
J'avais pas prévu celle-là.
Eh bien moi, j'ai prévu de vous parler de cultiver votre patience avec vos parents âgés. Pas simple. C'est vraiment pas simple. C'est un texte que j'ai trouvé dans un programme d'aide aux employés qui est diffusé à l'endroit où je travaille. Alors j'en ai pris, j'en ai demandé si je pouvais en parler et on me l'a accordé. Alors, ça fait partie du travail santé-vie et d'aider les gens. Vous savez, voir ses parents vieillir, c'est pas facile. C'est pas facile pour personne. Autrefois, capable de vous transporter sur ses épaules, votre père a maintenant de la difficulté à marcher. Puis votre mère, qui tenait l'agenda de tout un chacun, elle oublie même ses rendez-vous, même chez le médecin. Les personnes sur qui vous avez compté pendant de nombreuses années dépendent maintenant de vous. Et leur résistance, leur déni, leur critique, voire même leur colère peuvent compliquer encore plus les choses. C'est pourquoi il est parfois difficile pour vous de ne pas ressentir la frustration, l'irritation et même l'impatience à l'endroit des gens que vous aimez le plus que tout. On dit que la patience est le compagnon de la sagesse, mais comment acquérir la sagesse pour aider puis pour être des aidants naturels calmes et compatissants? Toujours pas simple. Commencez par reconnaître vos propres peurs et vos propres angoisses. Être témoin du déclin physique et cognitif de vos parents, ça peut être déchirant. Ça fait ressortir, évidemment, notre propre mortalité, j'allais dire, et nos craintes quant à l'avenir. Demandez-vous si c'est le comportement de vos parents ou votre propre tristesse ou votre propre anxiété qui vous porte à devenir impatient. Je pense que c'est la première de toutes les bonnes questions. Ensuite, tentez de cerner ce qui déclenche votre impatience. Pas toujours facile. L'impatience, elle peut surgir de nulle part. Tenez un journal pendant quelques semaines. Toutes les fois que vous vous sentez frustré ou irrité, notez-le. OK? Vous constaterez rapidement quels sont les événements, les situations qui vous amènent là. Donc, ce sera les déclencheurs que vous pourrez peut-être un peu plus contrôler. Essayez de voir les choses du point de vue de vos parents. Ils ressentent aussi de la colère en raison de la diminution de leur force, diminution de leurs limites, l'anxiété parce qu'ils savent bien, ils se voient bien aller, ils perdent leur autonomie, puis ils ont aussi peur de la mort. Vous pourriez être frustré par l'incapacité de votre mère à se rappeler certaines choses, mais sachez qu'elle l'est tout autant que vous. Prendre soin de quelqu'un est difficile, mais vieillir l'est aussi. Donc, pour faire preuve de patience, c'est pas simple. Insécurité, et ça les pousse à les mettre sur sa défensive et ça les pousse à se replier sur eux-mêmes. Optez donc pour une stratégie, pour une de celles-là. Souriez. Cessez de vouloir être parfait. Cultivez la gratitude. Trouvez des manières d'exprimer vos sentiments. Parlez à des amis, des membres de votre famille. Joignez-vous à un groupe de soutien pour les aidants naturels. Si vous vous sentez dépassé, consultez un professionnel. S'occuper d'un parent âgé peut être très enrichissant, mais également épuisant sur les plans émotionnels et physiques. Prendre soin de vous-même est probablement la chose la plus importante que vous pouvez faire en tant qu'aidant. Dormez suffisamment, mangez sainement, faites de l'exercice, trouvez du temps pour vous amuser, pour vous distraire. Soyez le plus près possible à profiter de vos bons moments. Ceci va se répercuter et va réfléchir sur vos parents. C'était un texte de réflexion du programme d'aide aux employés Travail, Santé, Vie que je vous ai fait part. Et suite à ce que je viens de vous faire part, j'ai aussi quelque chose de très, très rafraîchissant. Savez-vous que la maison des aînés existe déjà? Moi, je ne savais pas, mais je vous en fais part. Isabelle Porter est allée à Sainte-Perpétue-de-Lillet en décembre dernier et voici ce qu'elle y a vu. La maison des aînés promise par le nouveau gouvernement Coalition d'Avenir Québec, bien, elle existe. Cette formule se veut un remplacement d'un CHSLD qui existe déjà. Elle se trouve donc dans le petit village de Sainte-Perpétue-de-Lillet et elle a été construite il y a 10 ans. Et c'est un CHSLD, mais avec une toute autre formule. Elle est située au bout d'une rue, une petite rue résidentielle, et ça a l'allure d'un bungalow. Or, à l'intérieur, on y entre un peu comme si c'était une maison. C'est fait exactement pour que quand tu arrives, tu ne vois pas la maladie, explique José Chouinard, la directrice de ce centre de personnes âgées. Oui, oui, José Chouinard, c'est le même nom que la patineuse. C'est la deuxième José Chouinard la plus populaire au Québec. L'entrée de la résidence donne sur une grande pièce avec deux tables. Dans l'espace ouvert, on voit au fond une cuisine en long et sur la droite une salle de télévision. L'endroit est chaleureux, les fenêtres sont grandes et généreuses, l'éclairage tamisé et doux. La plus grande différence avec un CHSLD ordinaire, c'est le calme qui y règne. Ici, les résidents ne se font pas réveiller le matin avec une cloche ou une sonnette pour un déjeuner à une heure préétablie. Ils se réveillent à leur rythme et déjeunent quand ils sont prêts dans une véritable cuisine, comme à la maison en fait. Et également, chose très très importante, il n'y a pas de mauvaise odeur, on s'entend. Pour s'en assurer, les concepteurs ont créé des garde-robes ventilées de l'intérieur où les chariots contenant des couches souillées et des vêtements souillés y sont déposés. Donc, il n'y a pas de mauvaise odeur. La Coalition d'Avenir Québec a promis de construire une trentaine de maisons d'aînés d'ici 4 ans avec des investissements de 1 million de dollars. C'est le projet d'une génération. Ce modèle, le gouvernement va le définir avec les spécialistes, les usagers, le personnel et va ensuite le mettre en œuvre. Dans ces plans, chacune d'elles compterait entre 70 et 130 personnes. Or, celle de Sainte-Perpétue, celle ce dont nous parle, la journaliste, est encore plus petite avec 32 résidents. Ces deux maisons jumelées contiennent 8 résidents chacune. C'est assez ingénieux comme façon de faire. Le modèle développé ici a été imaginé localement. Et d'autres endroits au Québec, comme le Centre Carpe Diem de Trois-Rivières, ont développé le même genre d'approche. On a demandé aux architectes combien de pieds carrés on avait droit par personne, explique-t-elle. Puis, on a retiré des plans, de ces plans-là, la salle de réunion, le bureau du médecin et le bureau de l'ergothérapeute. Pourquoi? Parce que ici, les soins vont se donner à la chambre. Donc, on a gagné des espaces. Les accessoires pour donner les soins sont partout, mais on ne les voit pas. Il y a un lit électrique, comme on en voit à l'hôpital, mais la tête n'est pas blanche, mais plutôt colorée. Au plafond, il y a une rampe mécanique qui permet de soulever une personne, mais elle est au plafond, donc elle se fond dans le décor. Il y a plein de trucs ingénieux. Excusez-moi. Et le plus beau, c'est les ressources humaines coûtent ici un peu plus cher à cause du quart de nuit. L'ancien CHSLD avait 2 préposés pour 40 personnes. Mais il en faut le double à Sainte-Perpétue parce qu'il y a 4 maisons, donc ça prend 4 personnes. Excusez. Le projet s'est heurté d'abord à une certaine résistance syndicale au départ, mais au final, après des discussions, puis après refaire le modèle classique du métier, ça a été gagné. C'est un modèle qu'on peut reproduire ailleurs. Elle rêve notamment d'une formule à plus grande échelle, par exemple un projet de 80 places à Montmagny. Ça aurait la forme d'un papillon avec 4 ailes. C'est assez ingénieux. Et je la trouve très visionnaire, cette personne. Mais Montmagny, évidemment, n'est pas Montréal. C'est sûr qu'en ville, l'enjeu, c'est le prix des terrains, note-t-elle. Ça prendrait peut-être 2 papillons, l'un par-dessus l'autre. En attendant de superposer les papillons, Mme Chouinard, qui est la directrice de ce centre, répond « Tout le monde m'appelle. Mme Blais, la ministre, est même venue voir le bâtiment. Et après tout, pourquoi n'est-elle pas la deuxième Josée Chouinard la plus populaire au Québec? C'est parce qu'elle a des idées, des visions pour le demain. » Alors, la Maison des aînés existe déjà. Sainte-Perpétue de Lillet, c'était un texte de Isabelle Porter, paru en décembre 2018 dans Le Devoir.
On a volé à septembre, quelques jours avant de prendre le chemin vers notre vie d'errance. Une dernière tasse de thé avant de ranger l'été dans la grande maison des vacances. Les photos dans l'appareil, ça n'est pas vraiment pareil. Pour meubler ces trop longs mois d'absence, des neveux et des filleules, les regards je nage toutes seules, les éclaboussures des rires d'enfance, les visages ébouriffés de ces petits déjeuners, café noir et thé nature, les moments calmes et précieux où chacun se livre un peu entre miel et confiture. Souvenirs des nuits d'orage, confidences et bavardages, il arrive que le bonheur ressemble au visage enluminé autour de la cheminée, aux chansons qu'on a chantées ensemble. Loin des sentiers reconnus, il existe un coin perdu, et c'est l'un des plus beaux lieux du monde, où chemins de randonnée, de musique et d'amitié peuvent aussi parfois se confondre. Sous un ciel de cathédrale, où j'observe les étoiles, où même le cours du temps s'arrête, un point sous la Voie lactée qu'il nous faut pourtant quitter. Déjà la voiture en bas est prête, la terrasse abandonnée au perdreau pour une année s'est pavée de son plus beau silence pour nous dire à sa façon: moi je garde la maison et je compte aussi les jours, patience. Mais voilà, c'est terminé, au revoir la liberté. On retarde le départ, on traîne. Je débranche le téléphone, on n'est plus là pour personne. C'est fini jusqu'à l'année prochaine. On a volé à septembre, quelques jours avant de prendre le chemin vers notre vie d'errance. Une dernière tasse de thé et l'automne a commencé pour la grande maison des vacances. une dernière tasse de thé, et l'automne a commencé pour la grande maison des vacances.
La grande maison des vacances d'Yves Dutheil.
Très doux, très doux, très mélodieux. Merci beaucoup, vos choix de musique, Mathis. Magnifique. Je vous reviens avec un sujet qui touche encore les aînés. Est-ce que vous saviez que plus de la moitié des 55 ans et plus possèdent un téléphone intelligent ou une tablette? Peut-être que oui, vous le saviez. Non, Mathieu Fessin, que non. Alors, il y a des millions d'applis qui vous attendent. Ça, vous ne le savez peut-être pas. Une application mobile, ben, c'est une appli ou une app en anglais, c'est un programme téléchargeable gratuit ou payant, ça dépend. Et c'est disponible en trois versions, Android, Apple, Windows. En gros, c'est ça. Les applis sont compatibles avec les téléphones et les tablettes. Il est possible de les télécharger, par exemple, au store, c'est-à-dire Google Store, Apple Store, Microsoft Store. C'est si vous les téléchargez dans les stores, elles sont normalement exemptes de virus malicieux. C'est pour ça que je vous parle des stores, plus que de télécharger ça à droite par gauche. Alors, vous n'aurez pas de mauvaise surprise si vous fonctionnez avec les stores. Alors, je vais vous en parler de quelques-unes. Il y a des belles trouvailles. Par exemple, vous gérez votre budget. L'application s'appelle Portefeuille. A été choisie meilleure application financière par Apple 2 années de suite. Elle est simple, elle est facile à utiliser. Et je sais aussi que la plupart des institutions bancaires ont leurs applis de gestion financière. Il faut prendre un petit peu de temps pour associer vos revenus et vos dépenses aux catégories, mais quand le travail est effectué, c'est un jeu d'enfant de suivre le budget. Alors, retenez-la, celle-là. Elle s'appelle Portefeuille et Apple. Facile à trouver. Pour mieux dormir, ben, il y a une application qui s'appelle Sleep. En français, imaginez, en français, ça s'appelle Sleep Better. Excuse-moi. C'est drôle. Ça monitore donc les cycles de sommeil et promet de nous réveiller au bon moment à la phase de sommeil léger. Comment ça se fait tout ça? Dans un temps d'espace donné, mettons entre 7h et 7h30 par exemple, on installe le téléphone en mode avion pour éviter les ondes externes. Vous l'installez donc près de votre oreiller. L'application analyse votre sommeil en fonction de vos mouvements, des bruits. On peut ajouter des données là aussi, comme votre activité physique, consommation de café, etc. Et pour cerner les habitudes qui peuvent vous nuire. Puis elle va vous réveiller au moment du sommeil léger et non pas au moment du sommeil profond. Quand même génial. Sleep Better. Pour vos médicaments, ben, il y a des dizaines d'applications qui sont conçues pour gérer la prise et le renouvellement de vos médicaments. Je sais qu'il y a des bannières de pharmacie qui offrent gratuitement l'application aussi pour la gestion de vos médicaments. Pour voyager, tous les globetrotters savent que les données de leur forfait mobile sont extrêmement dispendieuses lorsqu'on est à l'étranger. Wi-Fi Maps fonctionne pratiquement partout où vous allez. Puis vous n'aurez plus besoin de demander le mot de passe. Vous n'avez donc pas besoin d'une connexion Internet active pour les localiser. Et convertir vos monnaies, l'application gratuite s'appelle, encore là en français, Currency Converter. Désolé, c'est comme ça. Ça convertit donc plus de 180 devises. Donc, il suffit d'indiquer la devise de départ et celle voulue pour connaître le montant qu'il en coûte dans la nouvelle devise. Donc, explorez, allez-y. Il y a des millions d'applis, je vous en ai sorti juste quelques-unes, mais vous allez en découvrir par vous-même des formidables qui vont peut-être être plus adaptés à vous. Tout ceci, je l'ai trouvé dans la revue Virage, et c'est la toute nouvelle revue de l'hiver 2019, parce que nous y sommes.
Penser du tout, rien c'est déjà rien, c'est déjà beaucoup. On ne se souvient de rien, et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien du tout. Mais comme si de rien. Trois fois rien.
Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous, de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue. Je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moi.
Petit rien, une chanson de Françoise Hardy.
Merci Mathieu. J'aimerais vous entraîner sur un sujet très sérieux. Vivre seul et en sécurité. Mais oui, c'est possible. On dit ici que jamais autant de personnes ont vécu seules. Enfin, il y a 30% des personnes âgées de 65 ans qui vivent seules. Ça veut dire que c'est une sur trois. Puis là-dedans, c'est 40% de femmes. Toutefois, que l'on soit seul ou non, il faut toujours être vigilant. Voici quelques trucs et des petits moyens pour se sentir en sécurité à la maison ou dans vos activités quotidiennes. À la maison, veuillez toujours porter fenêtre, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur, de jour comme de nuit. Si l'on sonne à votre porte, ou on cogne à votre porte, vérifiez toujours qu'il se trouve de l'autre côté avant d'ouvrir. Parlez à travers la porte si votre porte n'est pas munie d'un judas ou d'une chaîne de sécurité. Toujours démontrez votre présence à l'intérieur de la maison. Assurez-vous aussi que l'éclairage est adéquat dans et autour de la maison. Fermez vos rideaux, vos stores le soir. Lorsque vous revenez à la maison, arrivez à la porte toujours avec votre clé déjà en main. Si une porte ou une fenêtre a été altérée, n'entrez pas. N'entrez pas, assurez-vous de vous retourner dans un milieu sécuritaire et appeler la police. Lors de vos déplacements, faites part de votre itinéraire à une personne de confiance. Mettez vos objets de valeur dans vos poches ou à l'abri des regards lorsque vous vous promenez. À pied, et pour attendre l'autobus, empruntez des rues achalandées et bien éclairées. Marchez d'un pas assuré et au centre du trottoir. En autobus, asseyez-vous près du chauffeur. Assurez-vous d'être dans son champ de vision. Demandez aussi à descendre en deux arrêts, le plus près possible de votre destination. Ça peut augmenter votre sécurité. En automobile, vérifiez le niveau d'essence. Verrouillez vos portières. Déposez vos effets personnels sur le plancher du côté droit. Ça, c'est une idée que je ne savais pas. Et appelez la police si jamais vous avez une panne ou un problème. Ne sortez jamais de la voiture en cas de panne. Ne sortez de la voiture, en fait, que si nécessaire. C'était des simples conseils de sécurité, comme par exemple au guichet automatique. Allez toujours à un guichet achalandé et bien éclairé. Prenez l'argent le plus rapidement possible et comptez l'argent ailleurs que dans le guichet. Comptez-le dans un endroit sécuritaire. N'abandonnez pas votre relevé sur les lieux. Fiez-vous à votre intuition. Si vous vous sentez en sécurité, croyez en danger, appelez le 911. Analysez les situations où vous pourriez être vulnérable. Corrigez les situations et les lieux problématiques, tout ça pour vous protéger. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous reviens vendredi prochain. Je remercie beaucoup Mathieu d'avoir été avec moi.
Ça fait plaisir.
Et je vous souhaite à toutes bonne santé, bonne semaine. Au revoir.